Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bé, 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 bé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
La manière dont les idées sont autorisées à circuler a été considérablement restreinte. Qu'est-ce qui homogénéise la complexité, la différence, l'action dynamique et dialogique en faveur du changement et les remplace par une uniformité, une institutionnalisation culturelle, par une absence de remise en question du pouvoir en place, par une paralysie ? Sarah Schulman, votre livre pose d'emblée ce genre de vaste question. La gentrification des esprits, c'est son titre, paraît en France 6 ans après sa parution américaine. C'est un livre protéiforme dans lequel vous articulez comment les conséquences inexplorées du sida, la gentrification des villes au sens littéral du terme, ont favorisé, je vous cite encore, une diminution de la prise de conscience de la manière d'opérer des changements politiques et artistiques. Bonsoir Sarah Schulman, La gentrification des esprits est publiée aux éditions B42 dans une traduction par Émilie Noteris vers le français et en live vous serez traduite par Marguerite Capelle. Bonsoir à vous Marguerite.
Bonsoir.
Je signale que vous êtes dramaturge, vous êtes romancière, vous avez une œuvre littéraire derrière vous, ce qui donne à ce livre un statut un peu particulier dont on discutera tout à l'heure, car il mêle plusieurs formes qui le font aller du récit, du témoignage à un essai conceptuel pur et dur. Mais ce sera peut-être quelque chose qu'on abordera plus tard. Je voudrais qu'on commence par une forme d'anecdote. Au début du livre, vous racontez votre choc en écoutant la radio un jour de 2001, qui est peut-être la machine qui met en route l'écriture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Sarah Schulman ?
Sure, so I was driving in a little white rental car.
J'étais en voiture, j'avais loué une petite voiture blanche à Los Angeles et j'écoutais la radio. Et c'était le 20e anniversaire du sida. Et la radio a dit, on a dit, au début, les États-Unis avaient des problèmes avec le sida, mais finalement, tout s'est réglé. Et j'ai failli me planter avec cette voiture. Et je me suis dit, non, maintenant, ils vont simplement prétendre qu'il y a eu des progrès naturels et que les personnes séropositives ont été acceptées tout naturellement. Alors qu'en fait, mes amis se sont battus jusqu'au jour de leur mort pour forcer notre pays à changer contre sa volonté.
So I pulled the car over
et donc je me suis garée et j'ai appelé mon collaborateur de longue date, John Hubbard, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là qu'on a commencé un projet qui s'appelle le projet ACT UP Oral History, une histoire orale d'ACT UP. Et pendant les 17 ans qui ont suivi, j'ai interviewé 188 survivants, membres survivants d'ACT UP New York. Nous avons mis leurs interviews en ligne sur le site actuporalhistory.org. Et il y a eu, à l'heure actuelle, 11 900 000 visites sur ce site.
Ce qui vous a presque fait vous cracher avec cette voiture, c'est quelque chose qui était faux ou quelque chose qui était simplifié, Sarah Schulman ?
C'était complètement faux. Quand le sida a été identifié pour la première fois en 1981, il y a eu d'abord 47 cas à San Francisco, mais on sait maintenant qu'il y avait en fait 2000 cas déjà à l'époque. Et cela a été décrit comme le cancer gay, entre guillemets. Nous savons désormais qu'il n'y a rien de tel. Mais cela vous montre comment les gens ont considéré l'homosexualité elle-même comme une maladie et considéré que le sida était une sorte d'expression biologique de cette difformité biologique. Donc, dès le début, cela a été mal construit, mal représenté. Et ça a joué sur la façon dont nous voyons le sida depuis le début. Nous avons maintenant des preuves que dans les années 70-80, les personnes qui vivaient à la rue avaient des mots spécifiques pour décrire cette expérience. Il y avait une maladie qui était en réalité un syndrome du sida et qu'ils décrivaient dans leurs propres mots, par exemple la pneumonie du junkie. Et nous savons maintenant que s'il s'agissait en réalité de la pneumonie liée au sida. Donc en fait, les gens avaient tout un vocabulaire pour décrire des syndromes, mais la science ne l'a remarqué qu'en 1981, quand des hommes blancs, gays, qui avaient des médecins, ont commencé à être touchés. Donc, quand il y a eu pour la première fois un nom pour le sida, c'était le premier terme, c'était le mot GRID, c'était le gay-related syndrome d'immunodéficience. Et d'ailleurs, les gays et les lesbiens ne pouvaient pas donner du sang, et c'est toujours vrai aujourd'hui, parce que, à certains endroits, parce qu'ils étaient associés au sida. Mais en 1981, de toute façon, les homosexuels n'avaient aucun droit. Le sexe, les relations sexuelles homosexuelles étaient interdites jusqu'en 2003, quand une décision de la Cour suprême a renversé les lois anti-sodomie. Même à New York, en 1981, la discrimination était légale. On pouvait refuser un emploi à un gay ou le virer de son appartement ou refuser de le recevoir dans un restaurant. Donc on parle de gens qui n'avaient pas de droits et qui avaient été abandonnés par leur famille, ce qui est un facteur extrêmement significatif. L'homophobie familiale est une force extrêmement puissante dans l'histoire et qui a eu un impact extrêmement fort sur la crise du sida au niveau international. On pourrait penser qu'une maladie qui affecte un membre d'une famille pousserait cette famille à les soutenir et les aider, mais ce n'a pas été le cas pour les personnes atteintes par le sida. Donc c'était vraiment un groupe de personnes abandonnées et méprisées. Et c'est là que le mouvement s'est lancé, parce qu'au départ, la grande diversité de personnes touchées par le sida transcendait toutes les catégories de personnes marginalisées. Il y avait les pauvres, il y avait des gens de couleur, il y avait des hommes gays, il y avait des hémophiles qui avaient subi des transfusions, et puis des Haïtiens. Donc que des personnes dont nul ne se souciait. Mais une fois unis, ce qui les unissait, c'est qu'ils étaient tous dans la même situation, puisqu'ils n'avaient pas de traitement. Donc, que vous soyez à la rue ou que vous travailliez à la bourse, vous alliez mourir d'une mort terrible parce qu'il n'y avait rien pour vous soigner. Donc, c'était ça la situation au démarrage. Les cinq premières années, 40 000 personnes sont mortes aux États-Unis parce qu'il n'y avait absolument aucun traitement. Et il n'y avait pas de recherche non plus. Ce que l'industrie pharmaceutique essayait de faire, c'était de prendre des médicaments qui avaient échoué dans la lutte contre le cancer et dont ils avaient les droits, pour les recycler sur des personnes atteintes du sida, pour tenter de les redévelopper pour un marché plus large. Donc, en gros, ils cherchaient une pilule qui soignerait le sida et qui marcherait pour tout le monde. Et il a fallu repenser complètement les choses pour finalement aboutir à des traitements différenciés. Et au-delà des limites de race, de classe, les militants se sont dressés et ont forcé le pays à changer. Et c'est une action remarquable. Donc prétendre que ce pays avait abandonné complètement son action là-dessus, c'était faux. Et ça donnait aussi une fausse image du rôle qu'ils pouvaient jouer, que les activistes pouvaient jouer sur l'avenir.
Et c'est donc cette manière à la fois de lisser, de falsifier, de remplacer une version de l'histoire, de ne pas la dire dans sa complexité, dans sa profondeur, par une simple phrase qui relève, vous l'écrivez quasiment de cette forme-là, du happy end hollywoodien, Sarah Schulman, vous emmène sur la piste de ce que vous appelez la gentrification des idées. Alors peut-être pour se familiariser avec ce terme, commencer par ce qu'il désigne habituellement d'un point de vue urbain, du point de vue de la ville, parce que c'est votre point de départ. Vous dites, ok, il y a la gentrification des espaces urbains, des villes, de certains quartiers à New York, et vous, d'une certaine manière, vous vous mettez dans les chaussons de ce concept de la gentrification urbaine pour aller vers une gentrification intellectuelle, artistique, de l'édition et des idées. Est-ce que vous pouvez nous faire un état, un récit de ce que le concept de gentrification urbaine vous intéresse et pourquoi est-ce qu'il est une sorte de premier pas dans votre pensée, Sarah Schulman.
Okay, well, I think that there's a long history to this, and I would like to sort of set it out.
Une histoire assez longue que j'aimerais effectivement exposer en détail. Ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. L'invention de tout un nouveau phénomène culturel qui est les banlieues. Il n'y avait jamais eu de logement pour la classe moyenne créé de façon non naturelle, où tout a été fabriqué pour que les maisons soient les mêmes et que la façon dont les gens allaient vivre dans ces logements soit prédéterminée, prédéfinie. Le gouvernement a donné de l'argent aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils puissent acheter des maisons, des domiciles dans les banlieues. De cette façon, le gouvernement a en réalité financé les promoteurs immobiliers en passant par le corps de ces vétérans. Mais les banlieues étaient racistes et n'acceptaient donc pas les Noirs et les personnes de couleur et ne prenaient que les Blancs. Donc la classe ouvrière et classe moyenne blanche, les Juifs, les Allemands, les Italiens, etc., ont quitté le centre de la ville pour se déplacer dans ces contextes privatisés. Et très ségrégué. Donc c'était particulièrement significatif pour les femmes parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient allées travailler dans l'industrie, avaient acquis énormément de compétences et avaient gagné leur propre vie. Après la guerre, la société a voulu que les hommes puissent récupérer ces postes et donc a inventé la propagande de la vie domestique qui était associée à la vie en banlieue et des femmes qui étaient des mères parfaites, qui restaient à la maison et qui n'allaient pas travailler. Et donc ces vies privées dans des maisons individuelles, alors qu'en ville on vivait dans des appartements, on s'entendait, se disputait, avoir des relations sexuelles, etc. Il y avait vraiment un sens de la communauté. Dans ces sphères individuelles des familles, des banlieues, la famille est en réalité très dangereuse. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'abus et des comportements compulsifs hétérosexuels. Et donc le pouvoir du père est véritablement renforcé en fait par cette ségrégation dans les banlieues. Mais ce qui se passait dans les villes pendant ce temps-là, nous appelons aujourd'hui cette période la « white flight », c'est-à-dire la fuite des Blancs. Tellement de Blancs sont partis qu'il y avait énormément d'espace disponible et les loyers étaient très peu chers dans les villes. Et donc, ça a été la période où les villes ont produit des mouvements révolutionnaires, des mouvements politiques et des mouvements artistiques. C'est l'époque de la libération des gays, de la libération des femmes, du black power, tous ces mouvements extrêmement importants et des mouvements artistiques aussi. Et la raison pour laquelle les nouvelles idées se sont développées dans ces villes, c'est parce que les villes sont des lieux de différence. Quand on grandit dans un lieu de différence, on sait intimement que les autres sont différents. Et on comprend que son point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres. Et c'est cette compréhension profondément intime qui permet aux gens d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour produire de nouvelles idées. Dans les années 70, New York a fait, entre guillemets, faillite. L'argument était qu'il y avait tellement de pauvres dans la ville qui ne payaient pas suffisamment d'impôts pour entretenir les infrastructures. Donc l'un des premiers arguments en faveur de la gentrification a été lancé dans cette période, l'idée que si on ramenait plus de riches en ville, les villes auraient suffisamment d'infrastructures. Mais si vous êtes allé à New York aujourd'hui, vous verrez que c'est dominé par les riches et que les infrastructures sont catastrophiques. Le métro ne fonctionne pas, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que dans les années 80, quand Ronald Reagan a été élu, il a supprimé beaucoup d'impôts pour les riches. Donc les riches ne payant plus d'impôts, ils ne contribuent pas au financement des infrastructures de la ville. À cette étape-là, c'est là où la gentrification commence. Et la première chose, c'est que la ville a cessé de développer des logements à faible loyer, pour les bas revenus. Il n'y en avait plus. Au contraire, ils ont favorisé les entreprises, donné des bénéfices aux entreprises en accordant des crédits d'impôt aux promoteurs immobiliers de façon à développer des appartements pour les riches. Donc en fait, les impôts étaient payés par les pauvres pour que les nouveaux logements puissent accueillir les enfants du white flight, de la fuite des Blancs, c'est-à-dire ces enfants qui avaient grandi dans ces banlieues ségrégées, mais qui étaient attachés d'un point de vue sentimental à la ville parce que leurs leurs parents en étaient venus, leurs grands-parents y avaient vécu, ils y allaient pour s'acheter de la drogue ou pour aller à des concerts, etc. Et ils voulaient s'y réinstaller. Mais contrairement à toutes les générations précédentes de personnes qui sont arrivées à New York, ils ne venaient pas pour devenir des New Yorkais, ils venaient pour changer New York. Parce qu'ils avaient été élevés avec des valeurs autour du confort. La chose la plus importante dans leur vie, c'était le confort. Et nous savons que ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est d'être dans une situation inconfortable. Parce que si vous êtes dans une situation inconfortable, ça veut dire que vous comprenez que les autres personnes sont vraies. Sont réels. Et la seule manière d'être dans une situation confortable, c'est d'opprimer les autres, que les autres soient opprimés. Mais en raison de la manière dont ils avaient été élevés, ils sont arrivés dans la ville en voulant plus de policiers, alors que ça a toujours été une valeur urbaine de s'opposer à la police, mais ces personnes s'identifiaient à la police, aimaient les entreprises homogènes, aimaient les chaînes, pouvoir acheter les mêmes produits, quel que soit le quartier, pouvoir avoir des choses familières et détester ce qui n'était pas familier. Et ils ont commencé à prendre le contrôle du vocabulaire de la ville lui-même. Par exemple, si vous viviez dans un quartier mixte, en termes de classe, en termes de race, et que d'un seul coup il devenait homogène, blanc, et que les personnes que vous connaissiez étaient en train de perdre leurs appartements, que les entreprises auxquelles vous identifiez étaient chassées, pour vous, c'était un changement extrêmement dangereux. Vous aviez le sentiment que le quartier devenait moins sûr, alors que les gentrificateurs appelaient ça un quartier amélioré, un quartier plus sûr. Et donc, ils ont pris le contrôle du paradigme. Ce désir d'homogénéité fait perdre la capacité à produire de nouvelles idées. Si partout où vous allez, il n'y a que des gens comme vous et qui prennent le même cappuccino à 5 dollars et font leur shopping au même Uniqlo et ont tous le même type de vélo avec le même type de chignon masculin, la façon de vivre la ville comme un lieu de différence est perdue et on ne peut plus produire de nouvelles idées. Et c'est ça la gentrification des esprits, de façon littérale.
On va évidemment préciser cette idée parce que vous en faites tout un livre, Sarah Schulman. Mais puisque vous articulez ce que vous décrivez là de gentrification urbaine avec une période très spécifique en parlant d'une sorte de coïncidence de calendrier qui est ce tout début des années 80 à New York et l'épidémie du sida, on va entendre Didier Lestrade qui découvre à la fois le sida aux États-Unis mais surtout la manière de militer d'ACT UP.
J'étais marqué par tous ces stickers dans la rue avec « Silent Equal Death » et
« Silence
égal mort ». Et tout, c'est la vie littéralement collée de stickers, c'est-à-dire partout, aux arrêts du bus, dans le métro, sur le moindre poteau dans la rue, il y avait ces stickers. C'est-à-dire, c'était presque un peu situationniste. On aurait dit qu'un groupe avait marqué, avait fait des graffitis partout dans la ville Et c'est vrai que ça m'a intéressé et mon ami Jim m'a dit « Tu devrais peut-être aller à cette réunion, c'est intéressant, dans ton reportage, tu devrais peut-être parler d'ACT UP parce que c'est vraiment un groupe dont tout le monde parle en ce moment. » Je suis allé et ça se passait au centre gay et lesbien de New York et je me suis retrouvé un soir de réunion dans une salle qui était remplie de gens hyper variés et qui était vraiment très symbolique de l'état d'esprit de New York, d'ACT UP New York au début, c'est-à-dire très mixte. Il y avait autant des post-punk que des PD typiques du village à New York. Il y avait des gens qui étaient habillés typiquement East Village. Il y avait des gens qui étaient bourges, style avocat, qui venaient directement de leur travail avec leur veste et leur cartable, etc. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait des portoricains, il y avait des vieux, des jeunes. Ce qui était fascinant, c'est cette façon typiquement américaine de communiquer. Après, j'ai appris que ça vient des Robert Rules of Order, de toute cette organisation de prise de parole dans les assemblées publiques américaines qui vient de la création de l'Assemblée aux États-Unis et tout ça, de l'État américain lui-même, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Moi, j'avais vu des groupes français militants où tout le monde parlait en même temps, personne n'écoutait les autres, personne ne donnait son temps de parole à une autre personne, tandis que là, il y avait un facilitateur. Les gens étaient organisés même dans leur façon de prendre la parole, de dire ce qu'ils voulaient. Il faut voir qu'à l'époque, le groupe, par exemple, Media d'ACT UP, étaient formés de gens qui étaient professionnels, qui étaient vraiment déjà très bien placés à leur niveau dans leur carrière de médias. C'est-à-dire, il y avait par exemple un type qui s'appelle David Corkery, qui était producteur à Good Morning America, et ce type faisait partie du groupe Media d'ACT UP. Donc, tout ce savoir-faire sur la prise de parole, sur la façon de parler à travers les médias, de faire connaître son point de vue, de convaincre les gens que son point de vue est le meilleur que les autres, d'admettre le point de vue, un point de vue différent des autres, et tout ça étant conclu par un vote et une façon démocratique d'admettre ce vote, était pour moi quelque chose de complètement renversé.
On est en 1996 et Didier Lestrade, qui va ensuite avoir un rôle primordial pour l'ACT UP en France, raconte qu'il découvre en 1987 l'ingéniosité des manières de procéder, de discuter, qui lui paraissent tout à fait différentes, ne se référant à rien de connu pour lui. Et je disais, Sarah Schulman, que votre livre a plusieurs ambitions et il a une ambition de récit, de témoignage, de raconter quelque chose qui, selon vous, a été oublié, c'est-à-dire la ténacité du combat, la manière de s'organiser, la production d'une pensée politique certaine, la production d'une sorte de pensée marginale aussi, si on peut la dire comme ça, et que pour vous, ça vous tenait à cœur de le raconter. Ça veut dire que ce que dit Didier Lestrade ici, en 96 en France, pour vous, vous constatez que ça a été complètement oublié lorsque vous discutez avec la scène new-yorkaise au début des années 2000, c'est complètement passé sous silence.
Yes, it was forgotten primarily because of the advent of the internet.
Surtout en raison de l'arrivée d'Internet, parce qu'en fait, ACT UP, c'était un mouvement pré-Internet. Et quand Internet est arrivé, la première génération de personnes qui Google absolument tout, il n'y avait rien à googler, parce qu'il n'y avait pas de données. Et les personnes qui avaient survécu à ACT UP, de ma génération, étaient vraiment épuisées et acculées dans leur dernier retranchement. Il y avait eu beaucoup de dépression et il n'y avait rien de visible, il n'y avait pas d'archives. Quand nous avons commencé le projet d'histoire orale, nous avons commencé à montrer des cassettes, des témoignages à des gens. Et pendant les 10 premières années, j'ai passé tout mon temps à me promener avec des images dans les universités et à essayer de convaincre les enseignants d'en parler. Au bout de 10 ans, Helen Molesworth, qui est à l'époque conservatrice au musée d'art d'Harvard, a fait une première exposition au sujet d'ACT UP. Et les gens se sont retrouvés pour la première fois. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Et elle a montré ce projet d'histoire orale. Et puis ensuite, nous avons une exposition à New York. Et ça a été la première véritable réunion d'ACT UP le soir de l'inauguration. Ensuite, les gens ont lancé une page des anciens d'ACT UP sur Facebook et les gens ont commencé à se reconnecter avec ACT UP. Et à ce moment-là, Jim Hubbard avait conservé des milliers d'heures d'archives et de données. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo a été inventée en plein milieu du mouvement. Donc quand ACT UP a été fondé, c'était encore une technologie extrêmement compliquée. Les gens avaient cette espèce d'énorme machine et quelqu'un avait un énorme micro qu'il devait tenir. Mais le caméscope a été inventé au milieu du mouvement ACT UP. Donc ça a été la première fois qu'un mouvement a eu la possibilité de créer ses propres médias. Et ACT UP a vraiment inventé l'activisme vidéo. Il filmait les manifestations et envoyait ses vidéos à d'autres personnes dans le monde par la poste. C'était une sorte de première version de YouTube. Et nous avons ces matériaux qui ont été filmés dans toutes sortes de formats. À l'époque, il n'y avait pas de technologie pour enregistrer pour la télévision, par exemple. Donc les gens prenaient des caméras en 16 mm et, par exemple, quand il s'agissait d'enregistrer ce qui se passait à la télé, on filmait l'écran de la télévision. Donc nous avons des milliers et des milliers d'heures de ce type de matériaux que nous avons numérisés, que Tim Abard avait rassemblés et que nous avons commencé à rendre disponibles. Et nous l'avons fait gratuitement parce que nous sommes qui nous sommes. Et donc les gens ont commencé à se servir de ces archives et cela a lancé un nouvel intérêt pour ACT UP et une nouvelle période de documentation de ce mouvement.
L'une des autres anecdotes que vous racontez en début de votre ouvrage, Sarah Schulman, c'est une rencontre avec des jeunes artistes queer, une petite dizaine d'artistes queer qui vous parlent de leur travail, de leur recherche, de ce qui les intéresse et qui vous interrogent comme ça de manière assez naïve en disant, dis donc, est-ce que toi tu connais des artistes inconnus qui sont morts du sida? Et vous vous êtes obligé de leur dire que vous ne connaissez que ça, que vous ne connaissez que des artistes inconnus qui sont morts du sida. Ça dit l'espèce de silence qui a plané sur, vous le dites bien, plus de 80 000 individus qui sont morts à cette période-là à New York. Alors Sarah Schulman, si on essaye de faire se rejoindre ces deux choses-là, qui sont deux points importants de votre ouvrage, à savoir la gentrification urbaine dont on parlait tout à l'heure, et à la fois la manière dont le sida a décimé toute une génération d'artistes, d'activistes, d'intellectuels à New York, et en même temps a aussi été le moment où toutes ces personnes mourant, ils libéraient des appartements. Est-ce que c'est l'un des liens que vous faites entre ces deux phénomènes ?
Oui, en fait, c'est une simple coïncidence de l'histoire, ce n'est pas une conspiration. Mais quand on regarde les deux villes les plus gentrifiées des États-Unis, c'est New York et San Francisco, les deux villes où il y a eu le plus grand nombre de morts du sida, exactement pendant les mêmes années où la gentrification a commencé. Quand vous regardez la ville de New York, vous pouvez voir que les premiers quartiers qui se sont gentrifiés, c'était Harlem, East Village, le West Village, Chelsea et le Lower East Side. Les quartiers qui avaient le plus fort taux de mortalité lié au sida. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de reconnaissance légale du rapport entre un couple gay. Donc par exemple, quand quelqu'un mourait du sida, la personne qui vivait avec cette personne dans l'appartement ne pouvait pas récupérer l'appartement. Donc à chaque fois que quelqu'un qui avait un bail mourait, l'appartement partait sur le marché. Et donc des zones clés de la ville ont vu des appartements passer de 300 à 2000 dollars de loyer par mois parce qu'il y avait eu tant de personnes qui étaient mortes. Et donc ça a vraiment contribué à la croissance très rapide du mouvement de gentrification dans des villes clés.
J'avoue que moi c'est la première fois que je lis cette coïncidence de temporalité, de calendrier entre à la fois la mort massive de personnes dues au sida et à la fois ce phénomène de gentrification. Est-ce que d'autres personnes avant vous l'ont pensé aux États-Unis ?
Non, parce que en fait, c'est quelque chose que moi j'ai observé tout simplement dans mon expérience. J'ai vu ça dans mon quartier, dans mon immeuble, et j'ai toujours été quelqu'un qui observait la ville. J'écris sur la gentrification depuis mon tout premier livre en 1984, donc j'ai toujours eu cette habitude de documenter ces changements.
Vous précisez d'ailleurs, et c'est intéressant que vous disiez, c'est un livre que j'écris presque depuis ma fenêtre, qu'au tout début du livre, vous dites aussi, c'est un livre particulier parce que ce que je vais avancer, je ne vais pas pouvoir fournir de statistiques extrêmement précises, je ne vais pas avoir de documents pour dire que ma pensée est infaillible, je suis aussi concernée par l'histoire que je raconte, donc il y a un biais personnel, mais au sens, on va dire, subjectif des récits. Alors vous diriez que vous avez écrit quoi comme genre de livre, Sarah Schulman ?
Peut-être c'est... Maybe it's what people used to call belles lettres. I'm not really sure.
Ça relève peut-être de la catégorie des belles lettres. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais c'est vrai. Je ne suis pas quelqu'un du milieu académique et je suis incapable d'apporter des preuves de quoi que ce soit. Mais ça me donne la liberté de faire des suggestions, de proposer aux gens de réfléchir à ces suggestions. La façon dont je peux faire la chronique, dont je suis devenue en fait quelqu'un qui faisait la chronique du sida, c'était par coïncidence. J'avais 23 ans en 1981. Je travaillais pour un journal journal gay, le New York Native. Et à cette époque-là, ce qui nous préoccupait, c'est que nous voulions une loi qui protège les gays contre les discriminations dans le domaine du logement à New York. Et donc je suis allée à la mairie et le maire de l'époque, le maire Koch, était un homosexuel qui n'était pas sorti du placard. Et je me suis levée en conférence de presse et je lui ai demandé alors quand est-ce qu'on va avoir un projet de loi pour les homosexuels. Et puis d'un seul coup, il y a eu le sida. Et voilà, je me suis retrouvée à intervenir dans ces conférences et à demander au maire ce qu'il allait faire sur le sida. Et il ne faisait rien. Et donc pendant ces toutes premières années, les principaux médias ne couvraient pas la question du sida, ne le mentionnaient pas. Le New York Times, à cette époque-là, refusait d'utiliser le mot gay et de l'imprimer. Si quelqu'un qui était gay mourait, on ne mentionnait pas le nom de son compagnon. Et on ne mentionnait jamais le fait qu'ils étaient morts du sida. On disait qu'ils avaient fait une crise cardiaque. Donc les médias dominants mentaient en permanence. Et donc nos journaux gay underground étaient complètement nécessaires pour couvrir ces sujets-là. Et c'était à nous de trouver les histoires, de trouver ce dont il fallait parler. Par exemple, la ville a pris la décision de fermer les bains, les saunas fréquentés par les gays. Je m'y opposais parce que quand il y a un lieu central où les gens vont pour avoir des relations sexuelles et qu'il y a une invention toute neuve qui s'appelle le safe sex, le sexe protégé, il faut garder ce type de lieu parce qu'on va pouvoir y mettre de l'information, des préservatifs gratuits, etc. Mais la ville ne voulait pas aider les gens, elle voulait les punir et montrer qu'elle s'opposait à une sexualité libérée. Et donc j'ai eu pour mission de couvrir la fermeture de ces bains, ce qui était absurde parce que moi je ne les avais jamais fréquentés, ces bains et ces saunas. Et le fait que j'ai dû moi écrire dessus montre à quel point la situation était chaotique. Les journalistes eux-mêmes étaient en train de mourir. J'avais un rédacteur en chef au Village Voice. J'ai écrit les premiers articles qui parlaient du sida pour le Village Voice, les premiers articles de journalisme d'investigation. Et mon rédacteur en chef était en train de mourir au moment où je les écrivais. J'ai dû aller chez lui récupérer les corrections parce qu'il était trop malade pour aller au bureau. Donc la situation était très chaotique. Mais certains des sujets que j'ai couverts ces premières années, il y avait par exemple l'exclusion des femmes des traitements expérimentaux. Parce que dans les années 60, il y avait un médicament qui avait été donné aux femmes enceintes et qui avait donné naissance à des enfants mal formés auxquels il manquait des membres. Et du coup, il y avait eu un procès suite à ces essais expérimentaux et les compagnies, les entreprises pharmaceutiques avaient dû payer des millions de dollars de dommages et intérêts, donc elles ne voulaient plus de femmes dans leurs tests de médicaments. Mais il y avait des femmes atteintes du sida. Et le seul moyen d'obtenir des médicaments, c'était de faire partie de ces programmes de tests thérapeutiques. Et donc j'ai écrit un des premiers articles qui expliquait que les femmes atteintes du sida n'avaient accès à aucun traitement. Et plus tard, ACT UP a fait une campagne pendant 4 ans en direction du gouvernement américain pour les forcer à accepter les femmes atteintes du sida dans les programmes expérimentaux. Mais ça a été une bataille extrêmement difficile. Un autre sujet qui est apparu très tôt et que j'ai couvert, c'était les enfants nés séropositifs. Aujourd'hui, grâce à un médicament qui s'appelle le Truvada, plus personne ne naît séropositif aux États-Unis. Mais à l'époque, toute femme séropositive ayant un enfant avait un enfant séropositif. Et en général, c'était des enfants pauvres ou des enfants de couleur. Et la science traitait les nouveau-nés atteints du sida avec des placebos. Ils donnaient du sucre à la moitié de ces nourrissons au lieu du médicament, de façon à voir si le médicament fonctionnait. Ce qui me semblait pas du tout éthique, parce que du point de vue de la personne atteinte du sida, qui était le point de vue que j'ai adopté systématiquement, de ce point de vue-là, la personne atteinte par le sida était dans ce cas précis un nourrisson, donc c'était hautement controversé. Un autre problème, c'était les personnes sans-abri atteintes du sida. La presse de gauche, représentée à l'époque par le magazine The Nation, ne couvrait pas les questions politiques gays. Et essayer de les pousser à parler du sida est extrêmement difficile, jusqu'à ce que je finisse par proposer un reportage sur les sans-abri atteints par le sida. Et ils ont dit oui parce que là, cette fois-ci, il était question de lutte des classes et de pauvres et pas de gays. Donc c'était un effort vraiment considérable. Et quand ACT UP a commencé en 87, en février 87, l'un de leurs objectifs principaux, c'était de forcer le New York Times à couvrir la question du sida de façon adaptée. Les fax ont été inventés à cette période-là. Le New York Times avait un fax pour la première fois et ACT UP leur a envoyé des kilomètres de papier noir pour qu'ils sachent qu'on était après eux. Ils ont reçu dans leur fax toutes ces pages noires. On les appelait le New York Crime au lieu du New York Times. Et beaucoup des personnes qui, comme moi, essayaient de faire en sorte qu'on parle du sida au début sont morts et on n'est plus très nombreux à être encore vivants et avoir assisté à l'intégralité de cette histoire du sida. Et je continue à en parler aujourd'hui. J'ai écrit récemment un article pour Slate sur la criminalisation du VIH. De nos jours, nous sommes dans une situation où nous avons le traitement, mais les personnes n'y ont pas accès en raison de l'avarice des grandes entreprises pharmaceutiques. Donc je suis toujours sur le sujet. J'ai passé toute ma vie à écrire sur le sida.
New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart, Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And I'll take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong and maybe you're right. I'm wrong and just maybe all right. And maybe mother told you true. And there'll always be somebody there for you, and you'll never be alone. But maybe she's wrong. Maybe I'm right and just maybe she's wrong. Maybe she's wrong. And maybe I'm right. If so, is there?
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Une coiffure à la punk, un visage d'adolescente, une présence émouvante. Katie Aker publie des livres depuis 12 ans. Le monde de ses fictions est celui de la prédation, de la cruauté et de la violence. 8 romans, une des plus intéressantes nouvelles écritures de l'Amérique. Katie accepte tout le rebut de notre culture, hachant le réel, la fiction, en petits éléments. Elle lit et interprète ses récits dans des collèges, des clubs de rock et des galeries. Elle a commencé par être publiée dans des éditions à tirage limité. Katie Aker.
Those small editions were part of a whole community called the avant-garde.
Oui, ces éditions limitées faisaient partie de toute une communauté qu'on appelait des éditions d'avant-garde.
And now, because of the economic situation of the art world,
et maintenant à cause de la situation économique du monde de l'art,
which is both a reflection of and caused by the larger economic situation,
qui est à la fois un reflet et aussi une cause de la situation économique à un niveau plus large,
and political situation,
et la situation politique,
the avant-garde is dead.
L'avant-garde est morte.
Et quel est le poids en ce moment de tous ces jeunes écrivains qui sont en avant, qui sont en avant de la modernité, qui incarnent la modernité, comme vous, par exemple?
I play games with myself.
Moi, je joue des jeux avec moi-même.
About who my audience is.
Sur qui est réellement mon public.
Because always in my mind, I know what my friends are doing.
Parce que dans ma tête, je sais toujours ce que mes amis font.
And that is totally important.
Ça compte.
That Richard Prince does this kind of work, that Barbara Kruger does that kind of work.
Que Richard Prince fasse ça, ce qu'il fait, que Barbara Kruger fasse ce qu'elle fait.
That is factual. That
ça, c'est des faits.
What my influence is as a writer on a larger public.
Donc mon influence à moi en tant qu'écrivain sur un public plus large.
I don't know.
J'en sais rien.
I don't like writers who stay in a closet, who write only for themselves.
Ce que j'aime pas, c'est les écrivains qui restent enfermés dans un placard, qui n'écrivent que pour eux-mêmes.
But on the other hand, to write totally for someone else is not to care about the writing.
Mais d'un autre côté, écrire complètement pour quelqu'un d'autre, c'est ne pas se soucier réellement de l'écriture.
It's the same sort of ambivalence as the nature of language.
C'est la même ambivalence que la nature du langage.
You know, that right, language is neither referential, totally, nor totally non-referential.
Que le langage ne soit ni totalement référentiel, ni totalement non-référentiel. C'est l'ambivalence du langage, la même ambivalence.
It always hurts my mind, this problem.
Ça me fait toujours mal,
because
ce problème.
Deeply a political problem.
Parce que c'est réellement profondément un problème politique.
Voilà une riche archive de 1985, parce qu'on on entend à la fois Katie Aker et la toute jeune Laure Adler qui l'interviewe et la présente comme l'une des écritures les plus intéressantes venues des États-Unis, Sarah Schulman. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de dire que votre livre, La gentrification des idées, c'est aussi une manière à la fois de dire l'histoire qui a été passée sous silence, à la fois de reparler de ce concept de gentrification urbaine et à la fois aussi de parler simplement des êtres qui vous ont impressionné, que vous avez aimé, dont vous avez aimé la pensée et le travail et qui ne sont plus là, par exemple comme Katie Aker. Mais cette archive, elle est riche aussi parce que Katie Aker termine par la question de l'ambivalence du langage, presque par la notion de complexité qui est si importante dans la gentrification des idées, puisque ce que vous déplorez, c'est qu'avec tous ces mécanismes de remplacement, en fait, de remplacement des individus, de remplacement des espaces, en fait, il y a une forme de lissage et de simplification, de conformisme à l'adage « restons simples, soyons simples, ne soyons pas les personnes difficiles ». Alors, peut-être pour commencer, Katie Aker, pourquoi devait-elle forcément figurer dans ce livre-là, Sarah Schulman?
Let me say it's so great to hear her voice.
J'ai juste envie de dire que c'est formidable d'entendre sa voix.
You know, she's the kind of writer who really cannot exist now.
D'auteur qui n'existe plus aujourd'hui, qui ne pourrait plus exister. Elle a été publiée par Corporate Press.
With highly, highly innovative and experimental work, she commanded.
Elle avait des œuvres extrêmement expérimentales et très innovantes, et elle a réussi à toucher un large public alors qu'elle n'a jamais été mainstream. Mais la question de son influence est très intéressante parce qu'elle m'a effectivement influencé, c'est certain, elle a rendu toutes ces choses possibles, mais je crois que son influence la plus grande, ça a été de créer cette image de l'intellectuelle rebelle, de la fille intellectuelle rebelle. Elle a commencé à écrire dans les années 70. Et c'est surtout dans les années 80 qu'elle a percé, donc à chaque fois qu'une jeune femme intelligente et en colère se regardait dans le miroir et se disait qu'elle allait devenir écrivaine, il y avait la possibilité que Cathy avait créée pour eux, il y avait cet espoir qu'elle avait ouvert, mais beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler d'elle. Donc elle a eu une influence quand même culturelle réelle, mais elle est morte très jeune du cancer. La raison pour laquelle je l'ai mentionnée dans un livre qui parle du sida, c'est qu'elle est morte à l'époque où la génération du sida était en train de mourir. Donc les personnes qui formaient le contexte dans lequel elle évoluait ont également disparu. Et donc c'était particulièrement difficile de garder son œuvre en vie. Nous avons récemment fait une lecture de son livre Blood and Guts dans un lycée en rassemblant beaucoup d'intellectuels, plusieurs générations d'intellectuels, de femmes d'avant-garde qui lisaient ce livre ensemble. Et c'était une expérience fabuleuse, mais nous devons nous battre en fait pour faire en sorte que son œuvre reste vivante.
Mais ce qui est aussi amusant dans cette archive, c'est qu'elle dit « Regardez aujourd'hui la situation éditoriale qui est liée avec la situation politique et économique, ne permet plus à l'avant-garde d'exister. L'avant-garde est morte. Avant, je publiais dans des petites éditions indépendantes. Aujourd'hui, ce ne serait plus exactement possible. » Bon, 33 ans plus tard ou 30 ans plus tard, Sarah Schulman, vous vous dites quelque chose qui ressemble à ça ? Vous dites aussi la situation politique et économique fait que l'avant-garde ne peut plus exister ? Ou vous pensez que, en gros, elle disait pas la vérité ?
But it's not a repetition, it's an evolution.
Il ne s'agit pas de répétition, il s'agit d'évolution, en fait, de la répression. Nous ne sommes plus comme en 1980, quand Reagan a été élu et que le Parti républicain a formé une alliance avec les évangélistes chrétiens et que ces personnes ont pris le contrôle du Parti républicain et sont d'ailleurs les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Depuis, nous avons vu cette répression permanente des droits des personnes de couleur, des immigrés, des femmes. Les droits des gays se sont développés, mais j'ai le sentiment vraiment que les droits des homosexuels sont surtout les droits des hommes homosexuels. Il s'agit de leur permettre aux hommes d'accéder à l'appareil d'État, alors que les droits des femmes sont toujours réprimés. Les droits à l'avortement aujourd'hui sont diminués aux États-Unis. Donc c'est un mouvement extrêmement profond. Ce que Cathy observait, c'était juste le début. Et nous sommes maintenant en plein cauchemar.
Ce que vous appelez, d'une certaine manière, la gentrification des idées, la manière de ne pas entendre des personnes qui portent des propos complexes, qui portent, pour en revenir à ce que vous disiez en tout début d'entretien, Sarah Schulman, des propos inconfortables, des modes de vie inconfortables, des modes de création inconfortables. Pourquoi ? Parce que ce sont d'autres personnes qui dirigent les maisons d'édition, ce sont d'autres personnes qui dirigent les journaux et les théâtres. Quelles sont les causes, justement, de ce lissage du paysage intellectuel et créatif que vous décrivez?
Well, just to be logistic, there's the merging of all of these houses into,
déjà d'un point de vue extrêmement
a very small number of corporations.
Concret. Il y a la fusion d'énormément de maisons d'édition pour former quelques grands groupes, la disparition des médias indépendants. À l'époque où les sujets liés aux gays dans les médias mainstream, la seule manière en fait d'apprendre des choses là-dessus, c'était de passer par la sous-culture, la culture underground gay. Mais quand les grands médias ont commencé à traiter les sujets, ils ont choisi des personnes et des approches avec lesquelles ils étaient à l'aise. Et ils étaient en mesure de coopter des personnes qui sont devenues, via les circuits commerciaux de la presse grand public et de la télévision grand public, les porte-parole. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont été intégrés en tant que produits entrepreneuriaux. Et ce que les gens entendent dans ces médias-là, au sujet d'eux-mêmes, n'est pas vrai.
Et vous reproduisez deux conversations importantes que vous avez eues dans
dans ce livre-là pour montrer pourquoi est-ce que les médias ont choisi tel ou tel représentant de la communauté gay. Je vous propose qu'on écoute dans la traduction française votre entretien avec Edmund White en 1998.
Sarah Schulman, bien que vous ayez conservé une image d'aristocrate WASP, vous avez toujours fait preuve de transparence quant à votre passé sexuel et à vos désirs. Prostituée, sexe non protégé, masochisme, amour au téléphone, lavement et jeu ininterrompu. Cela contraste avec beaucoup d'hommes gays blancs qui revendiquent le mariage et la monogamie. Les gays doivent-ils à présent s'adapter davantage aux hétérosexuels ? Edmund White. Non. Tout d'abord, en ce qui concerne mon image, je n'ai jamais vraiment su d'où cela venait. Mes parents étaient tous deux du Texas. Ma mère n'a pas porté de chaussures avant l'âge de 16 ans. Je suis allé à l'université du Michigan et pas à Harvard. Je n'ai jamais reçu un penny de la part de qui que ce soit. À la seconde où j'ai été diplômé, je me suis retrouvé livré à moi-même. Je vis à 100% de ma plume. Le fait que je sois considéré comme aristocrate vient sans doute de ma manière de parler ou d'agir, ou d'être, ou autre chose encore. Mais cela n'a rien d'une réalité sociale. Je me suis battu pour vivre. Quant à la monogamie, je trouve cela absurde. Ceux et celles qui y aspirent vont perdre toute crédibilité face à la jeunesse. Dire à un homme gay de 22 ans « tu devrais devenir monogame » est de la folie, puisque tout ce qu'il veut, c'est avoir une sexualité débridée. J'ai toujours envisagé la vie gay comme une alternative à la vie hétérosexuelle. Si la vie gay cherche à reproduire la vie hétérosexuelle, je préfère me faire moine.
Sarah Schulman, vous reproduisez cet entretien, ce petit bout d'entretien que vous avez en 1998 avec Edmund White. Et puis quelques pages plus tard, on peut lire une autre conversation que vous avez cette fois avec Andrew Sullivan. Et vous nous laissez apprécier le pourquoi du comment. Le deuxième a été choisi et pas le premier pour parler au nom de ce qu'on pourrait appeler la communauté gay. Pourquoi ? Parce que il porte la complexité de ses propres désirs, il porte le refus d'une norme et d'une neutralité qui est aussi le modèle familial, le modèle monogame, et qu'en fait, peut-être que c'est ça qui n'est pas entendable par la société.
Completely, because what we see now, unfortunately,
tout à fait. En fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que tout ce qu'a prédit ou craint Edmund White est advenu. Nous avons une situation maintenant où les seuls droits légaux qu'ont les gays au niveau national, c'est le droit du mariage. Il n'y a pas de protection contre les discriminations, toujours pas aux États-Unis. Donc, ce n'est que quand nous comportons exactement comme les hétérosexuels que nous avons le droit d'accéder à des droits juridiques. Mais à partir du moment où nous sommes différents, nous comportons différemment, nous n'avons aucun droit. Maintenant, dans la police, dans l'armée, nous sommes enjoints à participer au comportement contraire à l'éthique de notre gouvernement, au racisme de l'Amérique. Mais l'émancipation des gays et la libération sexuelle et la liberté émotionnelle, ça, par contre, ce n'est toujours pas permis.
Pour vous, c'est parce que c'est ce qui menace le plus une sorte de norme dominante, cette liberté sexuelle, en fait. C'est peut-être la chose la plus menaçante.
That's exactly it.
Oui, c'est exactement ça.
Il
y a une trajectoire des gays blancs qui se sont assimilés dans les structures de pouvoir blanches. Et donc les hommes blancs, gays, en Amérique et en Europe aussi participent de plus en plus dans les mouvements de droite, voire d'extrême droite. Nous voyons des hommes blancs anti-immigrés ici en Europe, anti-musulmans, et qui participent à des partis racistes. Donc il y a vraiment une similarité dans les rapports de pouvoir. Alors qu'aux États-Unis, nous avons les queers qui sont pauvres, les queers dont personne n'entend parler, les queers de couleur. Ce sont ces personnes-là qui sont vraiment en dehors de la société, qui subissent le plus le poids de ce que fait le gouvernement.
Vous parlez des hommes blancs, Sarah Schulman, mais vous parlez aussi de femmes lesbiennes qui, d'un seul coup, se mettent en couple sur un modèle quasiment équivalent au modèle hétérosexuel, décident d'élever des enfants, reproduisent donc le modèle familial, peut-être se défont de ce pourquoi elles se sont longtemps battues, à savoir une sexualité détachée de la question de la reproduction et de l'éducation des enfants. Donc vous montrez aussi que ce sont des femmes lesbiennes qui quittent la marge et la lutte politique. Sarah Schulman, pas que les hommes blancs gays américains.
Non, c'est vrai que I'm sorry that it's true that the problem of homophobia in the family.
C'est vrai, le problème de l'homophobie au sein de la famille ne pouvait être résolu que par des femmes lesbiennes qui prennent le rôle traditionnel de mère de famille. Mais aux États-Unis, nous avons toute une crise de la femme blanche. 53% des femmes blanches ont voté pour Trump. 43% des femmes blanches croient les Kavanaugh, Brett Kavanaugh. Quand vous observez des comportements aussi bizarres et aussi antagonistes de la part des femmes blanches, vous pouvez vous dire que le problème aujourd'hui en Amérique, c'est ça, c'est que les femmes choisissent le racisme plutôt que ce qui relève justement de la réalité de leur sexe.
Et d'une certaine manière, toutes ces personnes-là qui auraient pu... partant de leurs conditions homosexuelles, du manque de droits des personnes homosexuelles aux États-Unis, lutter pour un autre monde, imaginer un autre monde, vous dites qu'ils participent à ce que vous appelez la perte de l'imaginaire, la perte d'invention de d'autres vies possibles, Sarah Schulman?
Well, I think that the trauma of AIDS really
changed. Je crois que le traumatisme du sida a vraiment tout changé. C'est intéressant. En tant que juive, je regarde souvent, je compare souvent avec l'histoire des juifs. Après l'Holocauste, il y a eu tout un mouvement en faveur de l'assimilation. Les gens se faisaient refaire le nez, changer de nom. C'est un désir de se dissimuler, de se fondre dans les normes dominantes de la culture. Et je crois qu'après l'épicentre de l'épidémie de sida, ça a été la même chose. Après, nous avons abordé le sida d'abord en croyant dans l'émancipation du mouvement gay, et nous avons terminé après ce mouvement en voulant des droits pour les gays.
Merci beaucoup, Sarah Schulman. C'est un livre qui, comme dans la très belle postface, contient plusieurs livres en lui-même, et donc j'invite chacune et chacun à le lire. Il est écrit en écriture inclusive, je le dis comme ça parce que ça fait toujours bien de le dire. B42, c'est l'éditeur. Marguerite Capel vous traduisait aujourd'hui, et c'est une traduction de l'anglais par Émilie Noteris.
If I had a dime for every time you tell me I'm not what you need, if I had a quarter, I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave.
Au son ce soir, c'était Julien Douminc à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve sur franceculture.fr à la page de l'émission. Vous pouvez trouver les références des archives, celles des musiques diffusées aussi, un petit endroit pour nous écrire et un autre petit endroit où cliquer pour vous abonner au podcast. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Luc Vauvier et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture. Walking in circles, circles. See you talking in circles, circles. See your thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. See?
truly need. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman.
Money's like a weapon.